mettez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Putain, c'est ta... T'as un petit peu un voleur aussi!
Elle va porter plainte pendant qu'on y est!
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Un iceberg, droit devant!
Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer.
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut! Comme c'est joli. Y'a Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé! Ah, c'est ça? Ah, tu me crois givré à mort!
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, on est à l'antenne de Radio Campus Tours, il est un peu plus de midi en ce 4 janvier 2025 et permettez-moi de vous souhaiter, chers auditeurs, chères auditrices, comme toutes les émissions depuis 4 jours, une très belle et heureuse année 2025 avec plein de belles découvertes de films, que vous soyez heureux dans votre vie, plein de belles choses, la santé évidemment. Et voilà, on continuera nous à vous parler cinéma toutes les semaines, tous les samedis midi, en bande. Aujourd'hui, on n'est que deux, mais on va vous parler quand même cinéma. Bonjour Louise.
Bonjour Solène.
Ça va bien?
Bah ouais, super, et toi?
Ouais, t'as passé des bonnes fêtes?
C'était
intense.
Oui, c'est ça, Noël quatre fois.
Ah oui, ça commence à... L'estomac, oui. Il commence, et puis la fatigue après.
C'est ça, c'est pas vraiment des vacances. Et toi, du coup, je sais pas si c'était...
Ouais, c'était très bien, ouais. On a bien mangé et puis on a bien fêté ça. Et retour voilà, aux choses sérieuses. On vous a fait le bilan 2024 la semaine dernière, nos films coup de cœur. Cette année, c'est pour cette première émission. On parlera voilà, de nos attentes 2025, des films. Voilà, tous les line-up ne sont pas sortis, hein, mais voilà, des films aussi qu'on va voir dans les prochaines semaines, qui, voilà, pour certains qu'on a déjà vus, et on vous parlera quand ça sortira, mais voilà, on va faire un petit teasing. Et puis, je vous parlerai de Nosferatu, qui est sorti la semaine dernière, et puis d'une série que j'ai découvert sur Arte, j'ai découvert par ce biais-là aussi qu'elle avait eu un gros aura sur les réseaux sociaux, c'est la série Samuel d'Emily Tronche qui est disponible sur Arte. Mais on va peut-être commencer par une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le box-office 2024 vient de tomber. C'est la Fédération nationale des cinémas français qui l'a sorti et on est en hausse voilà, par rapport à l'année dernière de l'ordre d'un peu plus de 10%, donc ce qui est très bien. Hein. Alors après, il y a sûrement des disparités hein, entre les régions, entre les films, entre les cinémas. Mais là, je cite l'article, hein, l'année 2024 se termine ainsi par un mois de décembre qui enregistre une hausse de plus de 18% par rapport à 2023. Voilà, c'est une très belle fin d'année. Quoi. Ouais. Avec des films, voilà, cette année, on l'a dit la semaine dernière, un petit truc en plus avec plus de 10 millions, Comte de Monte Cristo avec plus de 9 millions d'entrées. Donc ça, voilà, je pense que les cinémas sont contents en tout cas en Indre-et-Loire on n'a pas encore tous les chiffres pareils, mais les cinémas aussi sont en, alors peut-être que les multiplex un peu plus en baisse, on verra quand chacun communiquera ses chiffres. En tout cas pour le cinéma dans lequel je travaille, nous on est très contents puisqu'on est en hausse de plus de 10% avec plus de 20% aussi sur le circuit de cinéma itinérant, donc ce qui est une très bonne chose. C'est pas encore des niveaux d'avant Covid, hein, on s'y rapproche.
Pas revenu en fait.
On s'y rapproche, donc c'est de bon augure. Mmh. Ça, ça montre que les gens, en tout cas, ont toujours soif de cinéma. Après 2019, qui est l'année de, la dernière année, je dirais vraiment de référence, c'était une, ça avait été une très belle année, une très bonne année pour tous les cinémas. Mais on est à des niveaux voilà, de 2016-2018, donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui est une belle satisfaction quand même de se dire, voilà. Mais il y a eu des films porteurs, donc voilà, on est aussi porté par, par les films, hein. C'est un ensemble de choses, mais les films, ils font aussi pour beaucoup. Mais alors, en 2025, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir ? Toi, est-ce que tu as des films, Louise, qui te font envie en 2025 ? Tu te dis, tiens, ça, ce film-là, j'ai vraiment envie de le voir.
Alors, oui, déjà, il y a... enfin, j'étais étonnée de ça. It 2.
Ah, j'ai pas vu ça. Ah oui, j'ai pas vu.
Alors, faut savoir, le premier opus, enfin, c'était vraiment un film que j'ai adoré.
Il date un peu, Hit.
Oui, le premier, il est sorti en 1995.
Eh ben, il y a 30 ans.
Bon, c'est jeune, c'est jeune.
C'est peut-être ça, ils veulent faire les 30 ans.
Peut-être. Et du coup, c'est un film qui réunissait Robert De Niro, Al Pacino et Val Kilmer. Donc quand même...
ouais, gros casting.
C'est ça, et qui est vraiment top, hein, je vous le conseille. Et bah, en fait, j'ai regardé sur Internet et tout, et j'ai eu quelques infos sur le site Écran Large. Bon, après, je ne sais pas si c'est une très bonne source.
Ouais, si, voilà. Si.
Et il faut savoir que le livre, en fait, est déjà sorti de It 2, il y a 2 ans. Et du coup, ce livre, il est de Michel Mann. Aujourd'hui, il a 81 ans, et c'est aussi...
Ah bah, quand même, ouais, le réalisateur.
Oui, c'est ça,
ouais.
Le réalisateur, et en même temps, c'est le scénariste, enfin, c'est celui qui a écrit, du coup, le livre, film. Les et deux le livres. Livre. Et il a annoncé que le deuxième opus, il durait presque aussi longtemps que le premier. Donc, il faut savoir que ça durait déjà 2h45, 2h50, un truc comme ça. Et que Al Pacino voudrait que Timothée Chalamet soit son remplaçant, entre guillemets. Parce que ça serait, d'après ce que j'ai compris, un préquel, en fait, du premier film. Bon, on n'a pas plus d'informations, à part que le tournage devrait commencer ou devait commencer fin 2024 ou début janvier 2025.
Ok, donc ça sera plutôt fin d'année, du coup, si ça sort, si ça sort en 2025.
J'ai vu que normalement, ça serait fin 2025 ou début 2026, la sortie. Mais bon, je sais pas, on peut peut-être avoir une bonne surprise. Apparemment, il travaille très vite, Michel Mann.
Du coup, c'est je crois qu'on dit Michael Mann.
Ouais, j'ai pas l'accent anglais. Ouais.
Et non, mais puisque tu parles de Timothée Chalamet, ça me fait... penser, et du coup on va faire la transition là-dessus en vous passant une bande-annonce, c'est qu'il va incarner Bob Dylan à la fin du mois de janvier.
Oui, j'ai vu ça.
Et ça, moi, ça me fait vraiment envie, film. Déjà parce que j'aime beaucoup Bob Dylan. Et il y a déjà eu des biopics sur Bob Dylan, mais là, pas aussi, je pense, peut-être hagiographique que celui-là. Je me souviens d'un biopic, pardon, un peu original de Todd Heads sur, je ne sais plus le titre, mais c'était, voilà, c'était un biopic sur Bob Dylan déjà, mais incarné par plusieurs personnages, par plusieurs acteurs, dont Cate Blanchett de mémoire, là, parce que ça fait au moins 10 ans que c'est sorti, ça. Et, mais on se passe la bande-annonce, du coup, Un parfait inconnu, qui sort fin janvier 2025.
T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi ?
Pour trouver l'inspiration. Ils disent que personne n'a envie d'entendre ce qu'un gamin a écrit le mois dernier.
Eh bien, moi, en tout cas, j'aime tes chansons.
Qui a écrit ça?
C'est lui. Et si on applaudissait John Baez, les gars? Elle est jolie. Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment. Tes chansons, c'est comme des peintures à l'huile dans un cabinet dentaire.
Tu peux être un vrai petit con, Bob. If you go with snowflake storm,
with the rivers freezing, summer ends. Si tu veux captiver l'attention quand t'es sur scène, il faut être excentrique. Tu peux être magnifique ou très moche, mais tu peux pas être banal.
Sort quand ton album?
Bientôt. Il y a 200 personnes dans cette pièce et chacune d'elles veut que je sois quelqu'un d'autre. Faut juste qu'ils me laissent être.
Être quoi?
Tout ce qu'ils veulent que je sois pas.
Il paraît que Bob joue de l'électrique.
Pas sur notre scène en tout cas.
Ils veulent
seul que je sente blowing in the wind jusqu'à la fin de ma putain de vie.
J'en connais un paquet qui vont pas aimer.
T'as débarqué ici avec rien d'autre qu'une guitare. Tu parles jamais de ta famille, de ton passé.
Les gens s'inventent leur passé. Sylvie, ils se rappellent ce qu'ils veulent, ils oublient le reste.
Je veux savoir dans quel camp il est.
Je suis pas sûr qu'il veuille entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny.
Moi, je veux l'entendre.
Monte
à fond!
Fais du bruit, Bobby!
Voilà, ça sort le 25 janvier prochain. Voilà, on en reparlera quand ça sortira pour vous donner d'autres avis, parce qu'on ne l'a encore pas vu, ce film. Mais il n'y a pas... on se disait, ouais, il y avait beaucoup de biopics qui allaient sortir cette année. Donc il y a celui sur Bob Dylan, mais il y en a un autre au mois de janvier sur Robbie Williams aussi, Better Man.
C'est ça, et puis en avril aussi apparemment sur Michael Jackson.
Donc, ouais, à voir. Il y a Maria Callas aussi, jouée par Angelina Jolie au mois de février. Voilà, on se disait, là, en rantaine, que l'année dernière, on avait eu voilà, les biopics d'Aznavour, de Bob Marley.
Pas le même Bob, attention.
pas le même Robert.
En tout cas, j'ai été voir Bob Marley et puis ça dépend des adaptations, mais des fois j'ai l'impression que c'est plus une mise en avant et ça montre pas vraiment la réalité. Enfin, c'est un peu une histoire romancée, mais après ça peut être intéressant pour les gens qui connaissent pas ou justement qui sont fans et qui ont envie de
ou une première approche en tout cas de l'univers. Je me souviens quand Bohemian Rhapsody était sorti, effectivement il y avait eu plein de gens qui avaient dit ouais, mais il y a pas ça sur sa vie, il y a pas ça sur
son homosexualité qui était quand même pas énormément représentée. Non, c'était suggéré,
c'est ça, parce que voilà, pour plaire en tout cas à un plus grand large public. Donc là on verra sur les prochains films. Mais il y a aussi d'autres. J'ai noté des gros blockbusters aussi en 2025. Fin d'année, il y a Avatar 3.
Ah oui, moi j'ai déjà pas vu le 2, donc.
Mais en tout cas, voilà, on pourra ne pas faire l'impasse en tout cas dessus. En tout cas, en termes de sortie ici, voilà, forcément, on en parlera. Il y a Mission Impossible aussi qui sort cet été.
C'est vrai.
Et la deuxième partie. Et puis et Superman aussi. Il y a un Superman de prévu. De prévu cet été aussi. Donc, moi, je ne les attends pas avec impatience, personnellement. Voilà. Mais en tout cas, ils feront l'actualité au moment où ils sortiront. Et forcément, on ira les voir et on vous en parlera. Voilà. Mais je ne les attends pas avec impatience. Toi, il y a d'autres films que tu attends, Louise, en 2025?
Moi, j'ai vu qu'il y aurait Dragon qui sortirait en juin 2025. Et moi... Enfin, c'est peut-être le plus attendu pour moi parce qu'en fait, Dragon, ça a bercé toute mon enfance. C'est un peu mon film, enfin, les films que j'ai vus quand j'étais petite. D'ailleurs, le premier est sorti en 2010. Bon, là, j'étais pas allée le voir au cinéma, j'étais trop petite. Mais le deuxième, j'ai pu aller le voir et le troisième aussi. Et donc, c'est des films réalisés par, je sais pas comment on dit, Dan DeBlois. Je sais pas comment on dit.
Ouais, je peux pas t'aider là.
Et, donc là, ce sera un film américano-britannique. Qui sera un remake en prise réelle adapté du roman Harold et les dragons de Cressilia Cowell. Donc en fait, ça sera vraiment comme le premier film qui était sorti. C'est exactement la même histoire, c'est juste que c'est avec des prises réelles, des vrais personnages, des acteurs et tout ça, et toujours avec le même réalisateur. Donc on aura dans le rôle d'Harold Mason Thames, donc ne me demandez pas qui c'est, il n'a pas de fiche Wikipédia, donc acteur inconnu, mais il en aura bientôt une.
Bah, quand le film sortira.
C'est ça. Après, on a Nico Parker, qui a joué dans quelques films et quelques séries, mais que je ne connaissais pas vraiment, mais voilà.
Et je ne peux pas t'aider non plus.
Elle aura le rôle d'Astrid, et enfin, Gerald Butler, qui lui fera le père d'Harold, donc Stoïc la Brute. Et qui est un peu plus connu, qui est aussi réalisateur, je crois que j'ai vu Tomb Raider, tout ça. Enfin, qui a en tout cas participé à la réalisation de ces films-là. Donc j'en parlais avec un ami hier, lui il était plus sceptique en voyant la bande-annonce, en se disant, bon, est-ce que ça va pas gâcher, enfin,
On peut s'écouter la bande-annonce d'ailleurs.
Oui d'ailleurs. Et il disait, oui, je ne sais pas trop si moi, enfin, j'irai le voir, mais je ne comprends pas l'intérêt de refaire un film qui est déjà sorti, tout ça. Moi, je me dis, bah, quand même...
Pour les nouvelles générations.
C'est ça, ouais, ceux qui ne connaissent pas forcément. Et puis peut-être le film, il a pris un petit coup de vieux.
Ah, il faudra le revoir, je ne sais pas, ça fait très longtemps. Moi, je n'ai pas vu depuis
sa
sortie.
C'est un film animé, quoi. Ouais. Mais, ouais, je ne sais pas, moi, j'attends de voir. Voilà.
Allez, on s'écoute la bande-annonce de Dragon qui sort le 11 juin 2025.
Quand tu portes cette hache, c'est nous tous que tu portes.
Papa, je peux pas tuer des dragons.
Il le faut, fais-le.
Je suis un viking. Je suis un viking! T'inquiète pas, je vais pas te faire de mal.
Voilà, c'était la bande-annonce
de Dragon.
On parlait biopic avant, et pour faire le rapprochement entre film d'animation et biopic, en fait, j'avais pas noté là, mais en fait, il y a un super film que j'ai eu la chance de voir sur Frida Kahlo, qui sort au mois de février pour les en direction du jeune public plutôt, qui s'appelle Hola Frida. Et je vais vous passer là. Et c'est un. Alors c'est pas un. Faudra pas le voir comme un biopic vraiment autour de Frida Kahlo avec de l'enfance à sa disparition, mais plutôt comme. Je vais
essayer comme de voir. Comme une ouverture artistique ou.
Ouais, en tout cas sur son enfance, sur comment elle a eu son enfance du coup au Mexique et avec sa famille, sa maladie. Le fait que le dessin n'était pas forcément tout de suite présent, enfin en tout cas c'est pas forcément ce qu'elle voulait faire tout de suite, mais comment on va se construire des choses dans son enfance pour après faire l'artiste qu'elle est devenue. Mais d'ailleurs ils ont souligné ça en l'enfance de Frida Kahlo, quoi. C'est, par contre si vous allez le voir en pensant en tout cas, voir un biopic sur Frida Kahlo, là, vous seriez peut-être déçus parce que c'est clairement pas l'objectif du film. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont vu en étant déçus parce que avec le regard d'adulte, ben forcément, on peut être déconcerté ou déçu par rapport à. J'arrive pas à vous trouver ce que je veux.
Moi, je trouve que c'est une super bonne idée, en tout cas, d'adapter ça pour des enfants et tout. Bah. Surtout que les films, souvent, c'est plus à destination des adultes, souvent sur les biopics. Et là, faire ça, surtout sur Frida Kahlo, je trouve que ça peut être vraiment bien. Moi, en tout cas, ça me tenterait bien d'aller le voir. Surtout si ça peut être très poétique aussi, parce que des fois, dans les films d'animation pour enfants, il y a vraiment une patte, quelque chose.
Alors là, c'est André Cady et Karine Vézina. Alors, comme ça, vous les connaissez sans doute pas, mais c'est ceux qui ont fait Dounia et la princesse d'Alep. Enfin, André Cady, en tout cas. Et qui était un super film aussi d'animation pour le jeune public. Alors, la bande-annonce. Parce qu'elle est vraiment bien en plus, la bande-annonce. C'est pour ça que je voulais. Est-ce que c'est un film aussi très musical, et les musiques sont signées Olivia Ruiz. C'est elle qui signe la musique du film. Donc je crois que c'est ça. Hop, si je me trompe. Non, c'est pas ça. Ça c'était Wikid. Ah là là. Bah oui, une émission sans soucis techniques. Hein, ce n'est pas une émission de plan séquence. Allez, c'est parti.
Devant toi, hola Frida, tu t'en vas au-delà. Yo soy Frida, rechace la llorona. Yo soy Frida, coraje, eres
Silésia.
Je suis Frida Kahlo. J'ai de super pouvoirs. Viens découvrir mon monde.
Voilà, alors ça sort bientôt, ça sort le 12 février, donc voilà, pour les vacances d'hiver. Et il y aura un autre film aussi, et je vous en parlerai, parce que vraiment, vous savez, hein, le cinéma d'animation, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans cette émission. Et il y a un autre film, un programme de court-métrage qui sortira pareil à la même période, qui s'appelle Une guitare à la mer, de Sophie Rose. C'est un programme avec plein de techniques différentes, mais dans ce programme-là, il y a le film voilà, de Sophie Rose, qui est une réalisatrice française, fait en... Du coup, en papier découpé. Et c'est
pas
vachement...
sur Michel Oslo.
Ah non, je te montrerai tout à l'heure, mais et c'est vachement chouette. Et l'un des films, pardon, dans ce programme qui comporte trois courts-métrages, c'est un court-métrage qui s'appelle Les bottes dans la nuit de Pierre-Luc Grandjean et qu'il a réalisé entièrement avec un écran d'épingle. Et peut-être qu'on fera du coup une émission là-dessus parce que c'est, enfin, en tout cas, sur l'écran d'épingle, qu'est-ce que c'est l'écran d'épingle parce que c'est vachement, voilà,
c'est
très rare.
Il y en a deux dans le monde, j'ai vu.
Ouais, il y en a très très peu. Et il y a pendant les vacances d'hiver là, 2025, en région centre, Val de Loire, il y aura plein d'ateliers dans différents cinémas. Si vous êtes intéressé, on pourra mettre la liste avec un intervenant qui s'appelle Alexandre Noyer. Alexandre Noyer, il s'est pris d'affection vraiment pour l'écran d'épingle et il a recréé lui-même un écran d'épingle et il fait des ateliers autour de ça avec des versions plus voilà plus petites pour expliquer cette technique de cinéma d'animation qui est vraiment très ancienne. Hein. Et très rare, très singulière, et qui, là, Les bottes dans la nuit, c'est un film qui dure aux alentours de 10 minutes, et que Pierre-Luc Grandjean a fait entièrement, d'ailleurs en région, puisqu'il a eu la chance d'être en résidence pour réaliser son film à Vendôme, pas très loin d'ici, où il avait un écran d'épingle mis à disposition du Centre National du Cinéma, puisque au CNC, donc à côté de Paris, il possède, du coup, un exemplaire de l'écran d'épingle. Mais tout le monde ne peut pas l'utiliser puisqu'il faut être formé quand même, parce que c'est quand même une technique assez... voilà, on ne peut pas l'emprunter et se dire, tiens, on va faire un film.
Du coup, bah oui, il y a des résidences aussi artistiques, je veux dire, dans le sens du cinéma et tout. Enfin, je ne savais pas forcément.
Ouais, on pourra peut-être un jour faire un focus là-dessus, parce qu'effectivement, en région centre, on a Vendôme où il y a des résidences de cinéma d'animation puisqu'il y a il y a un pôle de cinéma d'animation à Vendôme depuis quelques années, ça doit faire une dizaine d'années maintenant. Et c'est cyclique en fait, c'est l'agence de cinéma de la région qui coordonne, en tout cas qui met à disposition ça. Et Pierre-Luc Grandjean, voilà, qui avait réalisé l'année dernière Léo, la grande aventure de Léonard de Vinci. C'est lui qui c'est un super réalisateur, moi que j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà, le cinéma d'animation, il y aura des chouettes choses cette année encore, aussi bien des grosses productions, on a parlé de Dragon, que voilà des cinémas plus indépendants avec Une guitare à la mer ou Hola Frida. Est-ce que tu avais d'autres choses Louise en attente?
Pas forcément, après je verrai ce qui est. Je pense qu'il y a plein de films, on nous a pas dit qu'ils sortiraient.
C'est vrai. Et alors là, la semaine prochaine, je ne l'ai pas encore vu, mais moi je l'attends beaucoup, c'est le prochain Pedro Almodovar.
Il y en a un nouveau.
Ouais, qui sort la semaine, la chambre d'à côté, hein, avec Tilda Swinton, qui a eu du Lion d'or à Venise. Donc j'ai hâte de voir ce film, qui a l'air assez chouette aussi. Puis un Pedro Almodovar, c'est toujours... C'est toujours bien. Et non, je voulais mettre le focus, on en reparlera aussi dans 3 semaines, mais voilà, puisqu'on a un peu de temps aujourd'hui, on va vous passer toujours en rapport avec le Festival de Venise. C'est pas le film qui a eu le Lion d'Or, mais c'est le film grâce auquel Vincent Lindon a reçu le prix du meilleur acteur à Venise en septembre dernier. Ça s'appelle Jouer avec le feu. Je vous en reparlerai. C'est un de mes premiers coups de cœur de cette année 2025. Et c'est signé des sœurs Coulin. Delphine et Muriel Coulin, un film français.
Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?
J'ai été pris à la Sorbonne aussi.
Qu'est-ce que je veux foutre, moi, avec mon BUT métallurgie ?
Non, arrête.
On peut démarrer !
Hier, on collait des affiches pour la manif. Il y avait une bande de pieds nickelés qui taguait au bout des voies. Il y avait un gars qui avait la dégaine de ton gamin.
Qu'est-ce que tu fabriques, Fous, hein?
J'accompagne des potes.
C'est bien commencé, hein. Il y a des ténures. Il y retourne la tête des gosses.
Ça ne gêne pas que d'en faire ça là-dedans?
Quoi qu'il y a des potes ultra?
Non, non, c'est pas seulement des ultras, non.
Allez, c'est bon, je me casse d'ici. Je te laisse avec ton fils parfait. Fous! Fous! Fous!
Va falloir arrêter de minimiser, hein.
Je dirais que c'est jamais assez bien pour toi ce qu'il fait. N'est pas obligé de tout faire comme toi. Hein.
T'avises pas à l'entrée de ton frère dans tes putains d'histoires, t'as compris? Tu gâches ta vie si tu veux, mais pas la sienne.
Tu peux rien contre moi.
J'ai l'impression que c'est devenu quelqu'un d'autre. Si ta mère te voyait, je te jure.
T'as dit quoi?
J'ai dit si ta mère te voyait.
Tu dis pas, c'est fort. Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends?
Le soir.
T'entends?
Arrête. C'était un enfant comme un autre. Si j'aurais fait l'histoire dans ma tête, mille fois, je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je savais qu'il tournait mal. Je pouvais pas lutter tout seul.
Ça s'appelle Jouer avec le feu et ça sort le 22 janvier. C'est un film sur un père qui tente coûte que coûte de sauver son fils d'une emprise, voilà, qui va avoir autour d'idées qui vont vraiment le radicaliser. Et c'est un père qui va pas forcément juger son fils, mais qui va essayer de le soutenir et de l'aider, mais à un moment donné qui arrive plus à faire face. Et c'est vraiment d'une justesse assez implacable et qui résonne très fortement avec l'époque dans laquelle on vit. Parce que plein de gamins un peu perdus, c'est un Benjamin Voisin du coup qui incarne voilà ce jeune homme qui a une vingtaine d'années. Il est dans les études, mais il sait pas vraiment très bien ce qu'il va faire de sa vie, et il y a plein de gamins surtout dans l'époque dans laquelle on vit, qui est très anxiogène, ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire à 20 ans. Enfin, on peut changer, en plus on a le droit de changer. Et lui, il a quand même un socle solide, c'est-à-dire ce père-là qui va, voilà, c'est pas quelqu'un qui est laissé à l'abandon. Mais quand bien même, du coup, il va se laisser happer par des idées radicales. Et ce père-là, il est démuni face à ça, parce que bah, y a la puissance des réseaux sociaux, la puissance des images qui fait que... Alors c'est pas forcément la radicalité dans laquelle on peut penser, en fait. C'est une radicalité d'extrême droite, des images assez très violentes, hein. Mais voilà, ça parle de ça, quoi. Et de l'impuissance d'un parent face à ça. Voilà, après, il y a aussi des comédies, hein, qui sortiront en 2025.
Des trucs moins dramatiques.
Voilà, c'est ça. En termes de grosses productions françaises qui sortent, il y en a deux, là, quasiment coup sur coup. C'est début février, Les Tuches, ah oui, si. Et début mars, Les Baudins.
Voilà. Ah, encore?
Et oui, encore. Les Baudins partent en vrille. Et voilà, nous. Et non, j'ai hâte, c'est en avril par contre. Alors, c'est pas une comédie, mais c'est le retour de Bong Joon-ho après quasiment 5-6 ans, même après Parasite, qui avait eu la Palme d'Or. Et il y a son nouveau film qui sort, j'ai hâte, s'appelle Mickey 17.
C'est lui qui fait,
ouais,
ça.
Avec Robert Pattinson. Et j'ai hâte de voir ça, moi. Ça sort en avril. Et, ouais.
Ah oui, j'avais pas compris que c'était lui. Ah bah.
Puis il y a encore, comme tu disais, plein de films dont on ne sait pas encore. On a quelques attentes, mais des fois on se laisse cueillir. Et moi j'ai hâte de me faire cueillir par des nouveaux réalisateurs, des nouvelles réalisatrices. On ne sait pas encore que les films existent, mais dès qu'ils vont sortir, en tout cas des bandes annonces vont sortir. On l'a vu, hein, cette année, pas plus tard que le mois dernier, 20 Dieux par exemple. Voilà, en début d'année, on n'a pas d'attente sur ce film-là. Et quand on le découvre, on sait, ah ouais, non, j'ai hâte déjà de voir son deuxième film.
Après, il y a toujours des films qu'on espère avoir une suite, mais que c'est pas, ouais, sûr. Du genre Retour vers le futur 4, bon, bah, j'attends.
Ouais. Ouais, je sais pas. Après, les trois suffisent, je sais pas, ouais, j'attends pas. Ah, t'attends, toi, un quatrième opus
À un moment, il était question qu'il y ait un quatrième opus, puis je sais plus pourquoi ça a abandonné, ça a arrêté, mais. Ouais, je sais pas. Moi, ça serait la surprise, en tout cas, si ça sortait cette année. Je me dis, c'est pas impossible.
Et voilà, en tout cas, pour nos attentes, on va, je pense, en, en rester là. Je voulais maintenant, voilà, on a fait nos attentes. Le 1er janvier, je regarde une série sur Arte que je ne connaissais pas. J'ai vu des affiches. Je sais pas, en ce moment, à Tours, en tout cas, il y a pas mal d'affiches sur Arte. Quand je me balade souvent en vélo et sur les arrêts de bus, il y a une campagne de pub Arte. Et du coup, j'ai été happée par une affiche qui parlait de cette série, Samuel. Je me dis, ah, tiens, ça me tente bien, le dessin me tente bien. Et je suis allée voir ça. C'est une série en 20 épisodes de 4-5 minutes chacun. Je vous passe la bande-annonce du coup de ce... Comme ça, vous allez rapidement voir de quoi il retourne.
J'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. I don't want to talk. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. Et puis il y a Julie. Julie, c'est pas que je l'aime. C'est juste qu'elle a rigolé à une de mes blagues il y a pas longtemps. Bon, en fait, je l'aime, mais personne ne doit savoir. Hey, t'es amoureux de la grande Julie. En fait, j'aime pas grandir parce que depuis que je suis née, je me trouve géniale. Et maintenant, je suis pas sûre si c'est vrai. Heureusement que personne ne lit ce que j'écris. Maman, si t'es en train de lire, ça se fait pas, t'arrêtes.
Voilà, c'est l'histoire du coup des 10 ans de Samuel, voilà, un petit garçon qui raconte dans son journal intime cette période un peu charnière et il est début de la série dans CM2 et puis après il y aura le passage en 6e. Je trouve ça tendre, assez drôle, émouvant. En fait, on passe par différentes émotions et il y a les doutes, les railleries, l'injustice, la bande de copains, l'amitié de cet âge-là et les réflexions. C'est vraiment très bien, je trouve très bien écrit. Faut savoir qu'elle a fait ça assez rapidement. En fait, j'ai vu sur Arte, il y a une interview d'une dizaine de minutes d'Émilie Tronche, qui est la réalisatrice et scénariste de cette série. En fait, elle sortait de l'école, de son école d'animation, et il lui restait dans le cadre d'une résidence un petit peu de temps. C'était pendant, enfin, en tout cas, pendant l'année du Covid. Et voilà, vu qu'il lui restait un peu de temps, elle a commencé à dessiner ce personnage de Samuel, de se rappeler son enfance à elle, où il n'y avait pas de téléphone. C'était les débuts d'Internet. Elle est née à la fin. La série se déroule en 2006. Voilà, j'ai fait le calcul, elle est née, je pense, en 96. Et voilà, c'était les débuts, en tout cas, de MSN. Voilà, pour ceux qui sont nés dans les années 90, il n'y avait pas, les réseaux sociaux. Donc, pour communiquer, en tout cas, c'était avec un camarade de classe, on passait par une plateforme qui s'appelait, un logiciel qui s'appelait MSN à l'époque. Donc, c'est marrant, en fait. Peu importe l'âge avec laquelle on regarde cette série, que vous ayez vraiment 10, 20, tous les âges, 30, 40, 50, peu importe, on peut retrouver des aspects de notre enfance.
Oui, et puis c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'elle tire ça de BD tel que... Enfin, ça me fait penser à Titeuf. Il y a des petits épisodes comme des choses.
Elle cite beaucoup aussi, une BD Lou, par exemple, aussi.
Oui, aussi Lou, et puis les cahiers d'Esther aussi.
Ouais.
Je ne sais pas si tu vois.
Riyad Satouf.
Oui.
Et vraiment, c'est pour ça que c'est assez universel. Au final, on peut tous, même si c'est pas forcément notre enfance à nous, mais il y a des prismes qui sont très universels. La bande de copains, le fait d'être amoureux d'une personne en secret, et puis faut vraiment pas qu'on le dise parce que après on va être la risée en fait de la cour de récré. Donc c'est le populaire aussi, la personne populaire qu'on envie et en même temps qu'on n'a pas envie d'être. Les souffres-douleurs aussi, le fait de pas se sentir à sa place forcément à cette période-là, et il y a un personnage qui s'en fout complètement en fait du regard des autres, et voilà, il y a vraiment tout ça en 20 épisodes. Et la particularité de ce film, je disais que j'étais un peu passée à côté. C'est une série aussi qui, en parallèle, a des épisodes, mais vraiment à part, sur les réseaux sociaux, en fait.
Oui, moi, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert. J'étais sur Instagram et je suis abonnée à Arte. Et du coup, des fois, ils mettent des réels, des choses comme ça. Et là, j'étais tombée justement sur des petits épisodes. Du coup, je pense que c'est pas la même chose.
Non, c'est pas... Ouais, parce que... Il y en a certains, du coup, j'ai regardé après coup, en fait, que j'ai revu, parce que, effectivement, je pense qu'il y avait un ou deux, effectivement, vidéos d'Arte que j'avais dû voir, mais comme ça, tu vois, dans le fil d'actualité, et je n'ai pas forcément compris que c'était une série, tu vois. Et après avoir vraiment regardé les réels, ou en tout cas, être, en voir plus, ben non, effectivement, c'est pas du tout. Je me dis, ça, j'ai pas vu dans la série. Donc, c'est vraiment à part, parce que le format n'est pas le même, en fait.
Par contre, c'est le même personnage.
C'est le même personnage, ouais. Mais le format... donc, on a un format horizontal pour la télé. Enfin, pour la télé, en tout cas, pour les plateformes. Pour la plateforme de YouTube et d'Arte. Hein, parce que la série, comme on l'a dit, est disponible gratuitement sur Arte. Mais pour les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, on est sur un format vraiment vertical. C'est assez malin aussi d'avoir pensé ces deux formats pour avoir différents publics aussi. Parce qu'il paraît, du coup, par exemple, sur une plateforme comme TikTok, j'ai pas TikTok, mais j'ai lu dans les interviews que c'est un carton, puisque dans la série, il y a énormément de musique. Et il paraît qu'il y a des gens du coup, qui reprennent du coup, des musiques en se réappropriant la vidéo. Donc ça permet de faire naître aussi quelque chose autour de la série, d'autres créations. Donc, alors j'ai vu les chiffres et ils sont assez déments. Hein. 5,5 millions du coup, de visionnements sur Arte, 7,5 millions sur YouTube et 14 millions sur TikTok.
Ah oui, quand même.
Alors, je ne sais pas la durée de visionnage par contre de la série. Là, c'est des cliquages, mais c'est assez fou quand même.
Bah après, comme ils ont... Enfin, en tout cas, l'autrice, elle a sûrement adapté au format Instagram, tout ça, TikTok. Et du coup, c'est des formats généralement qui durent une minute, une minute trente. Ouais. Donc après, c'est ça aussi. Je pense que c'est ce qui marche, quand ça ne dure pas trop longtemps. Et ça prend tout de suite. En fait, moi, quand je suis tombée dessus, vraiment...
C'est très addictif. Hein, la série, ça. Vous la regardez d'un seul trait. Hein, c'est vraiment... Et puis j'ai vu qu'il y aurait sûrement une saison 2, donc voilà, où Samuel du coup sera en 4e/3e.
Ah oui,
donc,
comme les carnets d'Esther.
Un peu, ouais. Ça serait top. Ouais, ça serait top. C'est vrai que c'est un carton, les cahiers d'Esther de Riyad Satouf. Au passage, sa nouvelle BD aussi sur son frère Fadi est sortie il y a quelques mois. Je vous la conseille si vous aimez bien, en tout cas, le trait de Riyad Satouf. Mais nous ne sommes pas une émission de bande dessinée. On va laisser nos amis de BD lire s'en occuper. Mais on va passer une chanson d'Abba qu'on peut entendre dans la série Samuel, donc The Winner Takes It All.
I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, strong there, but I
It feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes it.
Retour sur Radio Campus Tour pour cette dernière partie de l'émission de Plan Séquence, votre émission cinéma. Voilà, donc on a parlé de la série Samuel, on vous mettra le lien dans le podcast pour aller voir cette série si vous avez l'occasion. C'est gratuit, hein, sur la plateforme d'Arte. On va parler cette fois-ci, pour finir, d'un film qui est sorti au cinéma. Alors il y a eu deux films, moi, que j'ai beaucoup aimé. Un film que j'avais déjà vu, Bird, d'Andrea Arnold, mais on en parlera peut-être la semaine prochaine, parce qu'on est plusieurs à l'avoir vu, et du coup c'est bien d'avoir des avis multiples autour de ce film, qui est un film britannique à la croisée un peu des genres, je dirais entre Ken Loach et Le règne animal, qui est sorti l'année dernière, puisque c'est un film sociétal anglais. Andrea Arnold, qui est une réalisatrice britannique, a filmé beaucoup les classes pauvres de la Grande-Bretagne et notamment des villes. Des villes portuaires, et là c'est encore le cas, avec une petite touche fantastique dans le film. C'est pour ça que ça m'a fait penser un peu au règne animal, qui est sorti l'année dernière. Mais on voulait finir l'émission en vous parlant de Nosferatu de Roger Egger. J'espère pas, mais je pense que malheureusement j'écorche déjà son nom, qui avait signé The Witch et The Lighthouse en 2019 avec Robert Pattinson, et The Northman, que je n'ai pas vu, et Nosferatu, qui est un remake de 1922 du célèbre Murnau,
le vampire.
C'est ça, de Murnau, cinéaste allemand. Et puis il y avait eu un premier remake que je n'ai pas vu de Werner Herzog en 1979 avec Isabelle Adjani notamment, mais que je n'ai pas vu. Alors là, on peut peut-être d'ailleurs resituer voilà la première version de 1922 parce que voilà le film qui est visible. Voilà, sur YouTube, vous l'avez aussi sur Canal, en DVD, en Blu-ray, évidemment, Nosferatu, de 1922. Mais on est sur un film muet de l'expressionnisme allemand. Je l'ai revu après avoir vu cette version de Robert Edger. C'est vraiment un remake déjà très fidèle à l'œuvre de Murnau et voilà à l'œuvre aussi parce que c'est adapté du roman du coup de Dracula
de Bram Stoker. Ouais,
mais tu veux dire peut-être un mot là-dessus. Toi, tu aimes beaucoup du coup le livre.
J'aime bien tout ce qui est fantastique et tout. Donc moi, j'ai vu aussi toutes les versions de la Universal des Dracula et aussi tout ce qui est de la Hammer, je sais pas si tu connais, c'est un label, c'était un label avec très peu de budget qui faisait des remakes du genre Dracula fauché, et la fiancée, je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment
barré. Surfait vraiment sur.
Mais c'est drôle quoi. Et puis ouais, du coup, bah après avoir vu tout ça, j'ai vu justement celui de 1922 et j'avais lu, je sais plus si j'avais lu le roman avant ou après. Et effectivement, c'est super fidèle. Enfin, en tout cas, je trouve que ça retranscrit vraiment tout ce que le livre raconte. Il faut savoir que les livres, il est sorti en 1897. Et en fait, que Nosferatu le vampire, quand il est sorti, ils n'avaient pas forcément les droits pour l'appeler Dracula. Et ils n'ont pas eu les droits du livre. Et du coup, ils l'ont appelé Nosferatu le vampire. Donc, voilà. Et c'est toujours... Enfin, c'est une histoire... vous allez vous en douter de vampire. Donc...
un jeune homme qui est
agent Jonathan Hacker, je sais pas si dans le film il s'appelle pareil,
je sais plus
enfin dans le
mais dans le aussi je pense que, si il s'appelle, en tout cas ils font le même métier, si il s'appelle pareil et du coup qui est le comte qui est un jeune homme en tout cas qui
qui doit rencontrer le comte pour il me semble
pour faire une transaction en tout cas et évidemment à qui ça va pas forcément se passer comme prévu,
c'est ça.
Et il y a sa jeune fiancée qui
Maria,
dans le film elle s'appelle Hélène Hutter. Dans le film de Robert Eggers là, qui est sorti et qui est incarné par Lily Rose Depp.
Oui, du coup la fille de Johnny Depp.
Ouais, la fille de Johnny Depp. Et qui, elle, alors contrairement au film de 1922, là elle est beaucoup plus présente, je trouve, en tout cas dans le film qui vient de sortir. Et là où il y a une grosse différence entre les deux films. Évidemment, c'est le budget. Là où la version de 1922, et je la trouve remarquable pour ça, je trouve que c'est vraiment un film emblématique de l'expressionnisme allemand parce qu'il y a de la suggestion, il y a une lumière dans les ombres.
L'ombre projetée.
Ah, c'est ça. Même si on n'a pas vu le film, je pense qu'on connaît cette image-là. Et c'est magnifique, en fait. Et dans le film de Robert Eggers, il a repris vraiment, même si ce n'est pas les mêmes noms des personnages, il a repris vraiment la même architecture. Ce n'est pas forcément dessiné en termes d'actes, mais on comprend qu'il y a une évolution. Par contre, c'est les mêmes lieux. On pourrait mettre plan sur plan, il y a vraiment toute la dramaturgie qui est dans la taverne, le lieu un peu clos, c'est-à-dire la prison, les rues pavées, les rats. Il y a vraiment tous les... Après, là où ça diffère, c'est dans les effets effectivement visuels, où là, il n'y a pas forcément de sujet... Enfin, il y a de la peur, du coup. On a plus peur, évidemment, dans la version récente que dans la version de Nosferatu, parce que...
C'est vraiment film d'horreur ou c'est...
Ouais, il y a des trucs où on sursaute. Enfin, moi, c'est une surprise, en tout cas, un peu sursauter. Et puis avoir peur, parce qu'effectivement, les effets sont bien faits. Donc, bah, on voit, il y a du sang, quoi. Enfin, dans la version de 1922, on voit pas forcément voilà, le vampire vraiment attaquer sa victime et avec du sang qui jaillit. Là, il y en a certains. Alors, enfin, c'est pas à foison, mais il y en a. Voilà, ça fait quand même un peu plus. Parce qu'il y a les effets qui sont présents et la technologie fait que. Mais le maquillage est bien fait, les lieux, voilà, on s'ennuie pas. Après, s'il fallait choisir entre les deux versions, je veux dire, pourquoi en refaire en fait forcément une nouvelle ? Bon, là, on peut s'interroger là-dessus. Oui. Après, je trouve pas ça. Si ça peut faire connaître la version de 1922 et faire découvrir des jeunes spectateurs, notamment ce qu'était l'expressionnisme allemand et un film qui a plus d'un siècle maintenant, avec des. Voilà, vraiment une chouette. Voilà, cinématographie est vraiment.
Et puis aussi, c'est ce que tu disais, ça le remet peut-être au goût du jour, parce que si la femme, elle a une place un peu plus importante, c'est peut-être plus. Oui, plus intéressant, on va dire, parce que c'est vrai que.
Bah, dans le film, en tout cas, oui.
C'est un rôle moins que secondaire, c'est un rôle tertiaire, en fait. C'est vraiment une figure comme ça.
Bon. Ouais. Oui, c'est clair. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu. Je l'ai revu là, après coup, comme je l'ai dit. Et ça m'a sauté en fait aux yeux en me disant ouais mais dans la version que je viens de voir au cinéma non elle est beaucoup plus présente Lily Rose Depp que au final c'est plus son mari qui a un rôle secondaire
ah oui.
Qu'on voit enfin rôle secondaire c'est relatif hein on le voit quand même assez souvent mais j'ai cette impression là en tout cas en sortie de la salle que c'est plus elle qui est en tête d'ailleurs c'est le premier nom qui apparaît quand on tape Nosferatu sur Allociné, c'est le premier nom qui arrive hein, Lily Rose Depp, donc c'est pas non plus c'est elle qui est dans le mal et qui est vraiment ravagée par ce mal intérieur qui est le vampire donc, et comment elle va survivre à ça quoi. Est-ce que son mari va pouvoir sortir de ce passage-là quoi. Ou voilà, c'est au cinéma studio, mais je crois qu'il est aussi dans les multiplex, si vous voulez le voir en version française. On va se quitter là-dessus, il est 12h58, c'est parfait. On a fait toute l'heure, Louis, c'est parfait. on espère que ça vous a plu. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, on parlera peut-être, on va les inviter, du festival Désir-Désir, qui commence, qui est la première... premier festival de cinéma de l'année à Tours qui commence le 18 janvier prochain, donc c'est bientôt. Voilà, avec la programmation est sortie. Si vous allez au studio, là, vous pouvez la trouver. Et puis sur les réseaux sociaux et le site des studios aussi. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour parler cinéma. Ciao!
Salut!